Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Chaque jour, vous le savez, j'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et qu'elle est riche de talents. Le tout premier salon du livre audio a ouvert ses portes à Montreuil. Faire marcher ses oreilles pour aimer la lecture, c'est le pari que font, vous allez le voir, plusieurs acteurs français qui cassent les codes aujourd'hui. C'est le deuxième match des Bleus ce soir. Pour brandir le drapeau tricolore, on vous emmène à la découverte d'une maison qui les fabrique depuis 1832. C'est doublé et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous préparez peut-être en ce moment vos vacances, vous avez la destination mais pas encore la valise. La solution c'est Kabuto, une invention française qui change de taille au gré de vos voyages. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire si vous lisez beaucoup aujourd'hui, si vous préférez le papier ou si vous vous êtes laissé séduire, Anissa, vous aussi, par le livre audio.
Bah, venez nous dire peut-être quel est le dernier livre que vous avez écouté et non pas lu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également réagir et poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin sur le standard au téléphone 39-21, 50 centimes la minute.
Et oui, parce qu'hier, à Montreuil, a ouvert le tout premier salon du livre audio, preuve que le marché est en plein développement. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont choisi ce modèle pour faire aimer la lecture. Pour accueillir mes invités aujourd'hui, à mes côtés, Benjamin Lévesque est là. Bonjour Benjamin.
Bonjour à toutes.
Et notre coach, c'est Marie Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Bonjour Marie.
Bonjour.
Selon la toute dernière étude menée par le Syndicat national de l'édition, vous êtes un peu plus de 8 millions de Français aujourd'hui à être séduits par le livre audio. C'est une tendance que la Plume de Paon a vue arriver puisque cela fait 10 ans déjà que l'association existe. Bonjour Cécile Paluzinski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de cette association qui est née à Strasbourg. C'est là que tout a démarré, je crois, un petit peu par hasard.
Oui, un peu par hasard. En fait, j'avais eu l'occasion d'enregistrer un livre audio en tant qu'auteur et ça avait été une expérience extrêmement enrichissante de découvrir les coulisses d'un studio.
C'était pour Arte ?
Oui, c'était pas pour Arte, c'était avec un DA d'Arte qui avait lu le livre et qui m'avait dit que ça se prêterait bien à un enregistrement en lecture à voix haute. Donc ça a démarré effectivement par une expérience d'auteur.
Donc on est en 2009, vous êtes évidemment sensible vous à la lecture, en plus d'être passionnée par les livres. Vous aviez vu que le système, parce que vous êtes à Strasbourg, était en plein développement de l'autre côté de la frontière, en Allemagne.
Oui, alors c'était curieux, quand on passait de l'autre côté de la frontière en librairie, le livre audio était extrêmement présent et puis il y avait déjà beaucoup de lectures à voix haute, ce qui n'était pas du tout le cas en France. Donc on s'est posé la question du pourquoi finalement l'offre de livres audio en France est peu présente et en tout cas peu visible.
Alors, certains se demandent peut-être à quoi ressemble un livre audio. Eh bien, on a la réponse.
Un coup de vent soudain prolongea une vague jusqu'à mon promontoire. Pour l'éviter, j'escaladai un autre groupe de rochers, ce qui me rapprocha encore de l'écrivain. Il tenait de nouveau son fusil à pompe coincé sous son épaule. Un Remington Wingmaster à double bras coulissant, comme on en voyait parfois dans les vieux films, même si celui-ci était profilé en fusil de chasse.
C'est un extrait de Guillaume Musso qu'on vient d'entendre. Il y a 10 ans, quand le livre audio arrive, c'est aussi à ce moment-là que Audiolib commence à se développer en France. Donc, vous vous dites, on va se lancer dans l'aventure ?
Alors, ce n'était pas lié à l'arrivée des éditeurs, mais plutôt au constat qu'en Allemagne, c'était très développé. Et j'ai commencé à regarder quelle était l'offre en France. Alors, c'était l'arrivée d'Audiolib. Il y avait déjà quelques éditeurs comme Gallimard ou Édition des Femmes qui étaient très présents. Donc, on a commencé à répertorier les éditeurs livres audio en se disant on pourrait créer déjà un portail francophone du livre audio. On a eu des fonds européens pour ça, pour donner déjà à voir la diversité éditoriale du livre audio.
Puis, mais comment vous faites ? Comment est-ce que vous rassemblez les moyens, justement, ces fonds européens, à quelle porte vous allez taper à ce moment-là pour faire émerger vraiment cette tendance ?
Alors, je pense que le fait qu'on soit en région Grand Est a participé à pouvoir développer ce projet, puisque comme on avait l'Allemagne à côté, on avait un discours qui était plus entendu sur certainement des financeurs potentiels publics, donc la région, la ville, le département. Et donc, on est allé les voir en disant, nous, on croit au potentiel du livre audio, la preuve, ça marche chez nos voisins, mais il faudrait un outil qui nous permette de rendre visible toute cette offre. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt tous répondu présent, faisant un pari finalement un peu tôt, parce qu'on voit que ça a pris quelques années pour que ça démarre réellement.
Oui, ça a été un peu compliqué au départ de convaincre, par exemple, les éditeurs, les auteurs. C'était quelque chose d'assez peu répandu. Est-ce que dans l'esprit des gens, on se disait un livre audio, c'est plutôt réservé aux personnes âgées ou aux personnes malvoyantes ?
Oui, alors effectivement, c'est intéressant. Encore il y a 6 ans, on a fait une étude comparative du marché français et allemand, et on se rendait compte qu'alors qu'en Allemagne, on parlait du pouvoir de la voix, c'était rempli d'émotions, en fait, les commentaires des auditeurs. En France, c'était très axé, public malvoyant, question d'accessibilité à la lecture, mais on n'imaginait pas du tout que les lecteurs en général, tout public, puissent être intéressés par le livre audio. Donc ça a demandé beaucoup de travail, de promotion, de pédagogie autour du livre audio, et puis surtout de faire entendre ses voix, comme on vient d'écouter là, cette version de Guillaume Musso, pour montrer à quel point, sur Audiolib, pour montrer finalement à quel point c'est une autre expérience de lecture et qui peut enrichir.
Est-ce que ça a été un coup d'accélérateur pour le livre audio que le développement du podcast ? Est-ce que c'est quelque chose qui va de pair ? Est-ce que finalement, les jeunes générations sont aussi venues à ce type de consommation à ce moment-là ?
Alors, je pense oui, vraiment, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai bouleversement du marché depuis 2 ans et qui correspond effectivement à l'explosion du podcast. Et le dernier baromètre Sophia atteste bien que là, l'évolution du marché est due essentiellement au développement du public jeune.
Marie, notre coach.
Oui, chapeau, parce que d'une part, vous êtes précurseur et puis c'est une association, donc j'imagine que c'est de l'entraide, de la débrouille. Vous tenez comme ça depuis 10 ans, beaucoup de bénévolat aussi. Il suffit de créer son compte, c'est très rapide. On crée son compte, on a accès à une mine d'or. Pour moi, c'était une découverte. Et puis, on se laisse bercer par les livres. Alors, ce sont soit les auteurs eux-mêmes, avec des très belles voix aussi, avec de la musique d'ambiance derrière. On a même des stars, parce que j'ai vu qu'il y avait, par exemple, Patrick Bruel qui avait lu tout un livre. Comment vous faites ? Quel est votre modèle économique ? Comment vous faites pour tenir depuis 10 ans ?
Alors, ce que j'indiquais en fait, tout au départ, c'est qu'on a vraiment eu un soutien
Fonds européens,
la région, la ville, des soutiens publics. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, comme on travaille beaucoup sur la dimension pédagogique du livre audio, on a également beaucoup de partenaires privés, de fondations, la Fondation Orange, Yann Michalski, SNCF, qui nous soutiennent en fait dans nos actions. À destination justement des publics scolaires notamment.
Oui, parce que vous avez créé un prix des lycées.
On a créé un prix des lycées et qui va au-delà en fait d'un prix, c'est qu'on travaille vraiment toute une année durant avec plusieurs lycées, avec des écoutes en classe, des ateliers de lecture à voix haute, et en remettant en avant l'oralité.
Et vous-même, vous êtes bénévole ?
Moi-même, je suis bénévole, oui.
Benjamin, je voudrais qu'on regarde un petit peu les chiffres. Qui sont les leaders sur ce marché du livre audio ?
Alors, si on regarde la situation dans sa globalité, le marché est encore qu'au début. En France, ça représente que 5% de l'édition, mais ça va augmenter. On a 38% de croissance l'an dernier. Les grandes maisons d'édition ont lancé leurs livres audio, chez Hachette naturellement. C'est d'ailleurs le leader avec 700 titres, mais aussi chez Gallimard, chez Editis. Au total, on a 80 éditeurs. Le prix moyen du livre audio, il est presque le même qu'un livre classique, c'est-à-dire une 20aine d'euros. Et puis, savoir qui les femmes de plus de 50 ans sont de loin les plus grandes lectrices de livres numériques, contrairement à l'industrie musicale, où là, c'est principalement des jeunes entre 18 et 25 ans.
On reste ensemble et on parle livre audio aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Donner le goût de la lecture aux enfants, c'est essentiel. Alors, Bookinou leur offre un boîtier avec à l'intérieur des histoires que leurs proches ont choisies de leur raconter. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui nous découvrons le livre audio. Il est en plein essor. Dites-nous si vous aussi vous avez décidé d'abandonner le livre classique pour écouter maintenant les livres qui sortent. Venez nous dire les dernières histoires que vous avez écoutées. 3921, c'est le standard d'Europe 1 sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Ouais, on a tous des enfants à la maison qui attendent l'heure du coucher pour nous réclamer une histoire. Ils veulent l'entendre, mais pas la lire. Alors, Bookinou est né. Bonjour Vincent Gunther.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs de Bookinou, qui est basé à Villeurbanne, en région lyonnaise.
C'est ça.
Vous n'étiez pas du tout dans le monde du livre, dites-moi, quand vous avez commencé l'aventure. C'est Guillaume, je crois, votre associé, qui vous a justement sensibilisé à l'importance de cette lecture chez les plus jeunes.
Oui, effectivement. Et Guillaume, sa compagne, est orthophoniste. Et oui. Je pense qu'elle l'a un petit peu poussé dans le bain. D'une envie de donner goût à la lecture aux enfants et de trouver des solutions pour finalement leur permettre de lire plus souvent et dès le plus jeune âge. Parce que c'est des bonnes habitudes qu'il est important de prendre pour les enfants avant même qu'ils sachent lire eux-mêmes, finalement. Avant même, on s'adresse
avant
à des enfants. Ouais, c'est ça. On s'adresse à des enfants qui ont moins de 7 ans, qui ne savent pas encore lire, qui ne sont pas forcément autonomes avec un livre et qui ont besoin du récit audio, de l'histoire qui leur est racontée pour leurs premières expériences de lecture.
Le problème, c'est que souvent, les parents, papa, maman, n'ont pas forcément le temps de venir raconter ces histoires. Du coup, vous avez commencé à réfléchir à un système qui pourrait leur délivrer l'histoire sans que le parent soit forcément juste assis au bord du lit.
Oui, parce que en fait, je pense que dans beaucoup de familles, il y a quand même des temps qui sont sacrés, qui sont réservés au temps de la lecture pour les enfants. C'est souvent 20h le soir avant le coucher. Et ces moments-là, ils sont sacrés quelque part. On n'y touche pas. Mais il y a tous les autres moments de la journée pendant lesquels les parents sont au travail, en studio, ils font à manger, ils conduisent, peu importe, ils sont pris et c'est normal, c'est la vie qui veut ça. Et à ces moments-là, il n'y a pas de raison que les enfants ne puissent pas prendre en main un livre, tout simplement. Et donc, on a conçu un boîtier qui a un rôle d'enceinte, un boîtier de lecture audio pour ces enfants, pour qu'ils puissent écouter leurs histoires quand ils en ont envie.
Donc ça veut dire qu'en sortant du studio, là, si je sais que ce soir, je n'ai pas le temps d'aller lire une histoire à mon fils, je peux prendre un quart d'heure et enregistrer, aller sur une appli, enregistrer une histoire.
Ouais, alors tout à fait. En fait, peut-être j'ai envie d'expliquer la chose par du côté de l'enfant, parce que c'est ce qui est primordial, c'est que pour les enfants, il faut que ça soit très simple et très ludique. Et en fait, ce boîtier de lecture, il reconnaît les livres. Donc quand on badge les livres sur le boîtier, l'histoire démarre. Et la particularité, c'est que cette histoire qui démarre, en fait, elle peut être enregistrée au préalable par les proches, par les parents, par les grands-parents, par les oncles et tantes, par toute la famille, grâce à une application mobile. Et donc les enfants réécoutent quand ils veulent l'histoire de n'importe quel livre avec la voix d'un proche.
On va voir ce que ça donne.
Il était une fois, il y a fort longtemps, dans une région reculée de la Grande Tartarie, un tailleur qui tenait boutique dans la ville de Kashgar. Un jour, alors qu'il taillait un manteau, un bossu s'assit à l'entrée de la boutique et se mit à chanter, accompagné de son...
C'est le petit bossu, qui est-ce qui parle ? Qui est-ce qui raconte ?
Ça, c'est mon père, à moi, donc le grand-père de mes enfants. Donc c'est toujours un peu particulier de la réécouter, cette histoire.
C'est la première que vous avez enregistrée ? Une des premières ?
Non, parce que je me suis prêté au jeu avant de de le faire, de le demander à mon père.
Dans le grand bar, oui.
Mais bon, lui était vraiment très volontaire pour le faire. Et puis effectivement, c'est un cas d'usage assez classique sur le fait aussi de recréer, parce qu'il y a une approche de la lecture, mais il y a aussi une charge émotionnelle très forte.
Qui
passe par la voix.
Et par le lien qu'on a avec la personne qui raconte.
Exactement. Exactement. Et donc, ça crée du lien. Je pense que beaucoup de familles aussi sont dans une relation à distance avec entre les grands-parents et les petits-enfants. Et donc, c'est une manière simple de, sans avoir à se donner rendez-vous au téléphone, etc., de pouvoir écouter la voix d'un proche, d'un grand-parent, par exemple.
Que dit notre coach de l'initiative Bookinou ?
Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est tout choupinou, Bookinou, parce que l'objet est ludique, il est sympa, il est chouette,
etc. Ça ressemble à un petit transistor, hein, vous l'avez avec vous. Regardez, on va le montrer pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous suivent sur europe1.fr. Voilà, c'est ça, Bookinou. C'est vrai que c'est très
chou. C'est choupinou. Ouais. Et puis, l'idée est séduisante parce que c'est vrai que ça ne remplace pas le câlin du soir. Moi, j'adore lire des histoires à mes enfants collés contre eux. Mais par contre, quand le parent est absent ou même les grands-parents qui habitent loin ou quelqu'un qui est proche de la famille, lui mettre son histoire ou que lui-même puisse en autonomie mettre son histoire, ça, c'est fantastique. Et c'est vrai qu'en termes de mémoire, moi, j'aurais adoré garder les livres de mon enfance racontés par mes parents avec toutes les intonations pour les trois petits cochons, par exemple. J'aurais adoré garder ça. C'est une mémoire fabuleuse par la suite.
Je pense que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur un petit côté mémoire ou patrimonial, de se dire comme un album photo, il y a un album d'histoire audio de toute la famille. C'est des choses qu'on garde au-delà des 7 ans, du coup.
Alors, on peut en mettre combien, justement, dans le petit transistor ? On peut en...
Une centaine.
Une centaine.
Ouais, une centaine d'histoires qui peut être
Et on peut les conserver comme ça ? Ça coûte combien ?
Il coûtera 69€. Et là, on vient de lancer des préventes. C'est 65€ actuellement.
Vous avez fait une grosse campagne sur Ulule, ça a cartonné.
Mais effectivement, et on remerciera certainement jamais assez toutes les personnes, toutes les familles qui ont participé à cette campagne qui a été un vrai carton. En fait, c'est des personnes qui donc ont précommandé un produit qui n'existait pas encore et qui vont être livrés bien plus tard. Et donc, quelque part, elles prennent un risque avec nous, et puis elles nous aident à concevoir ce produit. Et sans elles, sans ces personnes qui ont participé au crowdfunding, ça n'existerait pas aujourd'hui. Donc, elles achètent un produit, mais elles participent à un projet d'entreprise.
Vrai projet d'entreprise, puisque du coup, vous êtes en train de lever des fonds et vous allez recruter cet été.
Ouais, c'est en cours, effectivement, tout ça. Donc, c'est bien, c'est des étapes de vie de l'entreprise. Donc là, c'en est une nouvelle.
On va continuer à en parler ensemble dans quelques instants sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Lire, c'est un moment à part. Il faut prendre le temps. Et pour ceux qui n'en ont pas, Cooper propose des résumés audio. Vous allez voir, c'est assez étonnant. À tout de suite.
Actuellement et jusqu'au 16 juin se tient à Montreuil le salon du livre audio. Le livre audio est en plein essor et on en a la preuve avec vos invités, Raphaël Duchemin, aujourd'hui. On en parle, il y a de nombreuses innovations en matière de livre audio. Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire quel est le dernier livre audio que vous avez écouté sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard.
C'est vrai que quand on fait ses études, on a des tonnes d'ouvrages à lire. Parfois des choses très techniques, des pavés de 300-400 pages où plaisir et lecture ont parfois du mal à coïncider. Alors pour essayer de rendre l'exercice un peu plus digeste, une start-up s'est créée. Bonjour Alexandre Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Cooper qui a débuté en 2015. Ce que je viens de dire, je crois que ça vous parle. Hein. C'est exactement ce qui vous est arrivé à vous et à votre cofondateur.
Alors oui. C'est-à-dire qu'on a, à la fin de nos études, on a surtout eu la frustration de ne plus avoir assez de temps pour lire tous les livres qui nous ont permis de devenir qui on est finalement. Et quand on arrive dans la vie active, on n'a plus le temps, on est pris à droite à gauche par le quotidien, par son travail. Et il y a beaucoup de livres desquels on passe à côté, notamment les livres de non-fiction. On a très rapidement, quand on a monté le projet Cooper, fait la dichotomie, la distinction entre la fiction et la non-fiction. La fiction, les romans, la littérature, c'est des livres, c'est le temps qu'on passe à les lire finalement qui importe. Les livres de non-fiction, donc les livres de développement personnel, d'actualité, de développement professionnel, sont des livres, finalement, on les lit pour le contenu, pour les idées que ces livres véhiculent. Et donc l'idée était de réussir à donner accès aux idées de ces livres sans que les personnes aient à les lire.
Donc vous avez commencé par en faire des résumés écrits, et puis très vite, en fait, ce sont les clients qui sont venus vous dire « mais nous, on les voudrait, mais en audio ».
Tout à fait. Oui, c'est assez intéressant. On a vraiment, innocemment, il y a 4 ans, commencé par l'écrit. On pensait que c'était ça qui allait plaire. Ça a commencé à fonctionner. Mais très rapidement, ça nous a été demandé. Donc, on a commencé par produire une ou deux versions audio de nos résumés. Et aujourd'hui, 100% de notre catalogue, qui est constitué de plus de 1000 ouvrages aujourd'hui, on en produit 30 nouveaux par mois. 100% du catalogue est disponible en audio. Et on a 60% du contenu qui est consommé sur Cooper, qui est consommé en audio. Donc, on peut considérer Cooper, c'est une société qui fait du livre audio.
Alors, comment on fait, justement, pour faire du livre audio, surtout sur des sujets aussi pointus, aussi techniques? Comment on fait pour résumer, pour condenser?
Alors ça c'est un peu la sauce secrète de Cooper, mais je vais en dévoiler une partie ici. En gros, on doit trouver déjà des personnes, c'est des humains. Il y a des humains derrière Cooper, il n'y a pas de robots. Donc on trouve des personnes qui doivent répondre à 3 critères.
Et qui forcément ont déjà lu tout le livre.
Et qui doivent lire tout le livre, effectivement. Donc ça doit être des bonnes plumes, ils doivent avoir un bon esprit de synthèse et ils doivent avoir une expertise dans un domaine, parce qu'on ne donne pas un livre de marketing digital à résumer à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Donc ces personnes-là, on les forme, ils doivent suivre notre méthode. On a un guide des conseils et bonnes pratiques et un standard très très précis avec des exigences de qualité. Ils doivent réunir certaines étapes. On prend le livre, on déstructure le plan du livre, on ne suit pas le plan et on identifie les idées clés d'un livre et on les restitue dans un document qui est simple à lire, qui est digeste et qui est facile à retenir.
Je voudrais qu'on regarde ou qu'on écoute plutôt ce que ça donne.
Chapitre 1. Raconter son histoire, c'est faire partager son expérience en faisant appel à des émotions qui parlent à tous. Il était une fois, une petite fille qu'on surnommait le petit chaperon rouge. Un jour que sa mère faisait la cuisine, elle dit à la petite fille « Va donc porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère malade !» Le petit chaperon rouge partit sur le champ. Pourtant, pour atteindre la maison de sa grand-mère, la petite fille devait traverser une immense...
Alexandre Bruno, c'est pas vraiment le petit chaperon rouge, hein, c'est non. Autre chose. C'est comment raconter, comment bien raconter une histoire?
Tout à fait. Alors, on a appris quelque chose avec le livre audio, c'est que c'est un support finalement qui nécessite d'éveiller l'attention de l'utilisateur parce que livre audio implique de pouvoir faire autre chose en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se déconcentre très facilement. Donc nous, quand on crée notre contenu, on le scénarise, on ajoute ce qu'on appelle du storytelling en anglais. On raconte des histoires pour rendre le contenu plus digeste. On ajoute de la musique et des bruitages pour éveiller l'attention de l'utilisateur à des moments clés dont on sait qu'il faut qu'il soit retenu par nos utilisateurs.
Que dit Marie, notre coach ?
Alors moi, j'en avais entendu parler par une jeune start-upeuse qui m'a dit « Tu verras, c'est génial, on peut lire un livre par jour en 20 minutes. » Et c'est vrai que l'idée était hyper séduisante et est hyper séduisante. C'est très différent de l'expérience dont on a parlé tout à l'heure, la plume de paon, où là, on écoute les histoires, on se laisse bercer. Avec vous, c'est un vrai investissement. Alors, c'est un investissement financier parce que c'est 7,99 € par mois. Et aussi un investissement en concentration. Parce qu'effectivement, on peut avoir un livre extraordinaire de Steve Jobs, peu importe, tous les livres possibles, résumé en 20 minutes, mais vous devez être concentré parce que ce sont des faits, c'est un résumé très précis. Par exemple, là, cette semaine, votre livre gratuit, c'est Devenir de Michelle Obama. Donc, on apprend quand elle est entrée en fac, le nom de ses parents, tout ça. Par contre, il n'y a pas l'émotion. Forcément, c'est un résumé, c'est pour sa culture personnelle. Il n'y a pas l'émotion quand elle fait une fausse couche. On entend simplement, voilà, elle fait une fausse couche. Mais on n'est pas venu chez vous pour chercher ça. On est venu pour vraiment... Ensuite, soit se développer personnellement, soit pouvoir parler du livre et le distiller à d'autres.
Effectivement, oui.
Alexandre, oui.
Oui, c'est l'idée. On ne va pas véhiculer l'émotion. En revanche, chez Cooper, on fait tout pour que les personnes qui écoutent un résumé aient un maximum d'impact et tirent un maximum de ce qu'ils lisent. Parce que quand on s'abonne à Cooper, quand on utilise Cooper, c'est pour lire des livres qui changent notre vie.
Les achetez, les livres ? Comment ça se passe ? Vous les achetez avant les livres ?
Nous, on les achète, oui. on les envoie à des auteurs qui en font les résumés. Et on sait très bien qu'un résumé ne va pas remplacer la lecture du livre. Donc nous, on incite nos utilisateurs derrière à acheter le livre.
C'est une première étape qui peut donner aussi d'ouvrir le livre.
On redirige vers l'achat du livre. On a des liens vers des sites marchands, vers les sites des libraires qui incitent justement nos utilisateurs à derrière acheter le livre.
La question des droits, elle se pose de temps en temps. Je crois que vous avez eu quelques démêlés avec une maison d'édition assez récemment. Je crois que c'est la maison d'édition Erol. Comment est-ce que vous faites justement pour régler cette question-là ? Est-ce que c'est un sujet pour vous aujourd'hui ?
C'est évidemment un sujet. Nous, on veut s'intégrer dans un écosystème, celui de l'édition. On a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, on est en discussion avec beaucoup de maisons d'édition. Évidemment, quand on innove dans un secteur, forcément, on vient bousculer un équilibre en place. Ça a été le cas quand YouTube est arrivé. C'est le cas dans les VTC. Donc, nous, on arrive avec une innovation forte. Il faut qu'on arrive à démontrer justement qu'on a un impact positif sur cet écosystème. On est en train de la trouver. On discute avec des maisons d'édition. On est en train de démontrer qu'on vient dynamiser ce marché, qu'on vend des livres. Et nous, on a tout intérêt à ce que les livres continuent à être vendus. Sinon, on n'existe pas. Donc voilà, on s'intègre bien dans cet écosystème.
On reste ensemble et on continue à parler livres, audio, dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi, bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. On vous attend.
La France bouge sur Europe 1 et la France bouge en matière de livre audio. Il est en plein essor, ce livre audio. Ne manquez pas le salon du livre audio. C'est à Montreuil jusqu'au 16 juin. On en parle avec vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On vous écoute également au 3921. C'est le standard, 50 centimes la minute, Raphaël.
Nous sommes avec Marie-Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte, qui est notre coach aujourd'hui. Benjamin Lévesque est là aussi. Il m'accompagne dans cette émission. Cécile Paluzinski est la présidente de l'association La Plume de Paon parmi nos invités. Vincent Gunther, fondateur, cofondateur de Bookinou, boîtier de lecture qui permet aux enfants d'écouter leurs histoires préférées à haute voix racontées par les proches, par la famille. Et Alexandre Bruno, fondateur de Cooper, une appli qui permet d'accéder aux idées fortes d'un ouvrage en 20 minutes, c'est promis, c'est 20 minutes seulement. On a déjà quelques appels, mais je voudrais d'abord qu'on regarde, Benjamin, je crois que vous avez repéré des livres, un livre notamment qui est destiné, on en parlait tout à l'heure, aux personnes en situation de handicap.
Oui, il s'appelle Daisy, alors c'est un livre audio dans lequel on va pouvoir se déplacer à l'intérieur du livre, retrouver le point où on s'était arrêté, placer des marque-pages aussi par exemple, et puis contrôler la vitesse de lecture, modifier la hauteur de la voix, les voix justement qui sont des bénévoles, et il en existe aujourd'hui 300 titres disponibles sur Daisy.
On a déjà des messages sur Twitter, Anissa.
Oui, il y a des témoignages, il y a des questions. Si, il y a une question pour vous trois de la part de Marc sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Le plus important pour un livre audio, dit-il, c'est la voix. Alors comment choisissez-vous les récitants ?
Qui veut répondre ? Cécile ?
Oui.
La plupart des maisons d'édition en fait procèdent à des castings de voix. Et à l'issue de ces castings, alors c'est pas toujours le cas, mais les extraits peuvent être proposés à l'auteur aussi qui va valider éventuellement la proposition. Et puis après, pour certains ouvrages, certains éditeurs ont une idée précise en fait de la voix qui a priori devrait bien fonctionner pour la lecture de l'ouvrage.
Et pour les grands titres, il y a de plus en plus de personnalités, notamment des comédiens qui font des audiolivres.
Ouais, effectivement. Oui. On a Sylvain qui a composé le 39-21 qui nous dit « Je suis écrivain en auto-édition, je suis intéressé pour le faire passer en audiolivre. C'est un marché qui se développe d'abord pour les malvoyants, mais maintenant, ça se démocratise dans les transports en commun ou en voiture. Comment peut-il faire, Sylvain, s'il a envie de faire un audiolivre ? Qui a la réponse ? Bah Cécile, allez-y.
Alors, en France, ce n'est pas encore très développé, l'auto-édition en audio. Par contre, aux États-Unis, il y a des plateformes qui se sont développées, qui mettent en relation et des auteurs auto-édités et des comédiens, avec un système après d'enregistrement en studio à domicile par les comédiens. Je pense que ça devrait finir par arriver en France prochainement.
Anissa ?
Oui, alors Florence, elle nous apporte son témoignage. Elle nous dit « Je suis une grande lectrice, je n'ai pas abandonné les livres papier. Par contre, dès que je prends ma voiture pour un trajet de plus d'une heure, c'est systématique, j'écoute un livre audio et particulièrement ceux d'Audiolib. »
Eh oui, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. D'ailleurs, les GAFA s'y mettent, hein, Benjamin. C'est peut-être la preuve que quelque chose est en train de se passer.
Les grands géants du web comme Amazon, par exemple, qui a lancé Audible, hein, sa filiale d'audiolivres. L'an dernier, on a eu Google qui a lancé un audio bookstore, une boutique en ligne sur Google Play. Et puis, côté français, alors c'est pas les GAFA, mais la Fnac et sa liseuse Kobo, eh bien, on noue un partenariat avec Orange pour que bien les consommateurs puissent accéder à ces histoires, à ces livres sur smartphone.
Je voudrais qu'on dise un mot avant de se quitter, Cécile, de ce que vous faites, de votre projet, parce que vous avez envie de monter un projet francophone. Ça en est où ? C'est pour 2020 ?
Oui, alors on espère monter des rencontres francophones du livre audio en 2020 et c'est consécutif en fait à des actions qu'on a développées depuis l'année dernière avec l'Institut français, le réseau diplomatique, les instituts et les alliances. Où on se dit qu'il y a un potentiel énorme au niveau de la communauté francophone, à la fois pour faire découvrir la littérature francophone à travers la voix de grands comédiens, mais aussi pour l'apprentissage du français, donc pour les apprenants de FLE, où on a lancé une expérimentation. Donc on aimerait bien, effectivement, enfin ça va se faire en 2020, organiser ces rencontres avec des Québécois, des Africains.
L'appel est relayé. Voilà. En tout cas, je vous donne deux derniers témoignages. Celui de Claude en Ariège qui nous dit « Je fais partie d'une filière qui permet aux gens malvoyants ou handicapés des mains de lire des livres. L'appareil Victor permet notamment de lire des livres audio. » Et puis Yvette qui est dans la Loire qui nous dit « Je suis malvoyante et depuis 10 ans, je ne lis que des livres audio. C'est très agréable. J'arrive à trouver quasiment tous les livres que je souhaite. Je fais partie des bibliothèques sonores de la Loire. On m'envoie des CD. » Et je peux choisir des livres. Voilà pour l'histoire du livre audio qui est en plein développement, qui est en train de s'écrire ici chez nous en France. Et grâce à vous notamment, merci d'être venu en parler sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle est née en 1832, est une des fabriques françaises de drapeaux. C'est doublé et c'est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et vos invités. Raphaël, nous découvrons l'entreprise qui va bien aujourd'hui et elle va nous aider à encourager les Bleus.
Oh,
ES, ce soir.
Oui, cette entreprise, vous la connaissez effectivement sans la connaître. Je suis certaine que vous avez tous déjà agité un de ces drapeaux. Bonjour Agathe Doublé.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez l'entreprise Doublé, entreprise familiale donc, qui existe depuis 1832. Alors au départ, on ne faisait pas des drapeaux, c'était des dramas. Je crois que c'est votre arrière-grand-mère hein, qui commercialisait des ornements pour les églises.
Oui, elle avait racheté un fonds de commerce qui, lui, effectivement, avait été créé en 1832. Et on était rue des Chabossus à Lille et on était spécialisés dans les ornements d'église. Donc c'est vrai que quand ma grand-mère et mon grand-père reprennent ce magasin, le marché des églises décline et donc on s'oriente assez naturellement vers les drapeaux destinés au départ aux collectivités.
Oui, on est après la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que votre grand-père, il est architecte et qu'on va lui demander de fabriquer des produits un peu spécifiques pour les estrades. C'est comme ça finalement que se développe un peu l'aventure Doublé.
Exactement. Donc on lui demande, la mairie de Lille lui demande un jour de fabriquer un podium. Et c'est vrai qu'il est architecte, il aime bien le tube. Et puis donc on se lance dans la fabrication qui est liée au tube assez naturellement, parce que c'est vrai que c'est cohérent avec les drapeaux. Bon, on va vendre un drapeau, mais on va aussi vendre le mât pour accrocher le drapeau. On va faire des barrières et on va décorer ces barrières. Donc, on rajoute un métier, en fait, à celui des drapeaux.
Et puis, on change de génération. Là, c'est votre père qui arrive dans les années 70. Et très vite, hein, dans les années 80, il va commencer à penser international. Vous achetez même, à l'époque, Paramount Flag aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Mon papa aimait beaucoup voyager et puis il avait le rêve américain et donc il a commencé par aller un petit peu aux États-Unis sur la côte Est et puis il a acheté Paramount Flags à San Francisco. Puis un jour, il y a un étudiant qui lui a demandé « Mais pourquoi vous avez acheté cette société à San Francisco ?» Puis il a dit « Ça me faisait rêver, ça me faisait penser à Hollywood. »
Oui, alors d'Hollywood, il va aller à Atlanta pour les Jeux.
En 96, tout à fait.
Et puis arrive très vite la Coupe du Monde de foot, 98.
Voilà, tout à fait. Et là,
grosse étape pour vous aussi.
Grosse étape pour nous. Ça nous lance vraiment dans l'événementiel. Donc, on s'est vraiment diversifié.
Donc, faites tout, hein, de A à Z.
De A à Z, voilà. On avait fait le repérage en fait, des lieux. On avait proposé un produit innovant qui était la potence qu'on met sur les candélabres qu'on voit maintenant un petit peu partout. Et puis, on a décoré tous les abords des stades et toutes les villes qui accueillaient la Coupe du Monde de foot.
Aujourd'hui, finalement, les drapeaux, c'est quoi? C'est un quart de votre activité?
Oui, tout à fait. Le drapeau, ouais. Tout à fait.
On peut faire du sur-mesure si on vous commande là, nous, un drapeau. Vous allez nous le faire à la taille qu'on
veut. On va vous le faire comme vous voulez. Vous pouvez demander un petit triangle, vous pouvez demander une guirlande, vous pouvez demander 100 000 drapeaux pour décorer un stade. On fait de une pièce aux centaines de milliers de pièces.
Et vous en fabriquez combien par an?
Alors, on fabrique à peu près 4 millions de mètres carrés, on va dire, donc beaucoup, beaucoup. Et en fait, on va vous conseiller aussi, on va vous dire voilà, quelle utilisation, vous en avez besoin, pourquoi, et on va vous orienter en fait, dans la commande pour que vous ayez le plus beau drapeau qui soit bien adapté à ce que vous souhaitez.
La coach, Marie-Éloi.
Alors Doublé, c'est une entreprise institution hein, dans le nord de la France. Et vous, et c'est toute l'âme des entreprises familiales, vous avez commencé, je crois, toute petite à vendre des drapeaux, etc. Vous avez repris l'entreprise avec votre frère et votre sœur il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Comment vous imprimez la marque de votre génération dans cette entreprise qui a bientôt 200 ans?
Eh oui.
Alors, je pense que la marque, elle est dans nos gènes. C'est vrai qu'on a été baignés depuis tout petit, en fait, dans cet univers, dans l'univers d'entreprendre. On a eu des parents qui ont travaillé ensemble, des grands-parents. Et puis, quand la question de la succession s'est posée, naturellement, ça nous est apparu, bah oui, travailler en famille. Donc, non pas avec nos conjoints, mais avec mon frère et ma sœur. On a trouvé que c'était une aventure formidable. Et on a eu envie d'y aller. Alors, c'est comme un jeu de cartes, hein. Il y a des risques aussi. Mais on y est allés tous les trois et avec beaucoup de bonheur.
Et ça marche plutôt bien parce que vous avez... Vous avez formé aussi, et ça c'est important de le préciser, les personnes qui étaient dans l'usine, hein, à Lille, avec vous, à côté de Lille. Et vous êtes 300 aujourd'hui, vous avez un groupe qui est devenu important, parce qu'il y a des filiales, il y en a 5.
Oui, donc on a 5 filiales, donc on est présent aux États-Unis, on est dans le Colorado, maintenant à Denver, on est présent en Allemagne, à Bonn, et puis on est présent aussi en Espagne pour les principales filiales du groupe.
Et alors Anissa parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde féminine. Vous avez fait la décoration des villes qui accueillent, depuis le coup d'envoi de
oui.
cette Coupe du Monde, tous les abords, hein, c'est vous qui les avez décorés?
Tout à fait, donc on a fait une prestation de repérage, de conseil, et puis ensuite on a fourni donc effectivement toute la décoration dans les villes qui accueillent la Coupe du Monde féminine.
Si l'équipe de France arrive en quart, vous savez que vous allez avoir un boom de commandes.
Oui, on va avoir un boom
ça
de commandes.
Comment on gère ça?
Alors, on a beaucoup d'appels, des gens qui nous téléphonent, qui veulent commander des drapeaux. Et puis, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ouvre des comptoirs. Et puis, c'est formidable parce que les gens viennent et viennent nous acheter des drapeaux au comptoir. Donc,
Et Marie parlait de génération. Justement, il y a un projet, et j'aimerais qu'on en dise un mot, c'est que vous êtes en train de travailler sur le drapeau connecté.
Oui.
Ça, c'est le produit du futur?
Alors, c'est le produit du futur. C'est vrai que si on reprend l'histoire du drapeau, c'est le plus vieux média du monde. C'est un outil de communication formidable. Et puis, le drapeau symbolise l'appartenance à une communauté. Donc, c'est un symbole très fort. Et puis, on s'est dit, oh là là, nous, c'est vrai qu'on est créateurs d'enthousiasme, le groupe Doublé. Et on s'est dit, mais en fait, avec le drapeau, on pourrait mesurer l'enthousiasme. En fait, par exemple, on imagine un stade, on imagine des supporters qui agitent un drapeau. Et en fait, le fait d'agiter le drapeau mesurerait l'enthousiasme et le support à une équipe. Et donc, c'est une autre façon de voir le drapeau.
C'est un applaudimètre avec un drapeau, quoi.
Exactement.
Exactement.
Et on peut imaginer derrière, du coup, un nouveau business, une nouvelle chaîne de valeur, en fait. Du coup, Point de départ du drapeau.
Point de départ du drapeau qu'on verra très bientôt, ce drapeau connecté. C'est doublé, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Et j'en profite, puisqu'on parle drapeau, pour dire aux auditeurs d'Europe 1 qu'ils nous rejoignent. Ce vendredi, nous serons à Reims, une des villes qui accueille justement la Coupe du Monde féminine de foot. On va mettre en avant les femmes qui font bouger la région. On vous donne rendez-vous à partir de 13h. Vous pouvez venir, c'est en direct et en public, à la petite halle du Quartier Libre. Et vous pouvez retrouver toutes les informations, évidemment, sur le site d'Europe 1.
Il est 13h47.
Raphaël Duchemin.
Partir en vacances avec une valise à la bonne taille, c'est le challenge que s'est fixé l'inventeur de Kabuto. C'est un bagage qui évolue. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, Raphaël, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et là, aujourd'hui, on va penser aux vacances.
Oui, vous êtes peut-être en train de vous arracher les cheveux pour savoir quelle valise vous allez prendre pour le week-end, tiens, ou pour la semaine. Benjamin, vous avez la solution pour nous éviter ce casse-tête.
Et bah, tout simplement avec une valise extensible, Raphaël. En fait, l'entreprise qui la fabrique s'appelle Kabuto. Et il aura fallu 2 ans de travail pour son président et cofondateur. Bonjour Jérôme Tricot.
Bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour.
Alors expliquez-nous et montrez-nous aussi comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que cette valise est extensible.
Alors elle a des caractéristiques techniques et mécaniques, et elle est brevetée, moi je suis inventeur et entrepreneur à la base, et des caractéristiques un peu tech. On va démarrer par la partie la plus simple. L'idée c'est de toujours voyager qu'avec un bagage cabine pour ne jamais à faire le check-in. Donc c'est une question de praticité, surtout quand on voyage pour les affaires. Donc ici, vous dézippez.
Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr,
voilà,
je le précise.
C'est super simple, vous dézippez.
On est en pleine démonstration.
Et en fait, vous avez une tige télescopique comme ça et vous agrandissez.
Et on peut, génial, on tire. Il y a une sorte de soufflet à l'intérieur qui permet de l'étendre.
Et qui est totalement sécurisé.
Et là, on gagne combien de places?
On gagne en fait 2 jours de voyage. Donc en fait, quand on part 3 jours, ça fait 5 jours, on passe de 40 à 60 litres, on gagne 50%. Mais je parle en jour de voyage parce que quand on prend 3 jours, un homme va toujours prendre la valise cabine. Une femme va réfléchir 4 jours, la femme n'hésite pas, elle prend la valise qui va en soute parce qu'elle a trop d'affaires. Et l'homme, il tasse. L'homme, il tasse, il a ses costumes froissés, ses chemises froissées, mais il s'en fiche, il tasse. Et 5 jours, on n'en parle plus. Donc c'est l'idée, c'est une seule valise, c'est 2 en 1 en fait.
Alors au-delà de ça, c'est aussi un bijou technologique.
Alors elle est connectée, alors c'est un grand mot. Elle est digitale. Alors, c'est assez simple. La valise, on peut l'ouvrir avec des clés, des applications, des codes. Là, c'est tout simple. C'est comme son téléphone, comme un smartphone.
Son pouce.
L'empreinte
digitale.
L'empreinte digitale, on peut mettre jusqu'à 10 empreintes digitales, donc toute la famille. Et elle a un autre avantage qui est assez intéressant qu'on voit ici. C'est qu'en fait, c'est la première valise au monde qui charge les ordinateurs.
Donc on pose l'ordinateur dessus.
Voilà, on le branche en fait ici. Il y a une station de rechargement comme une prise de 120. Il y a une batterie à l'intérieur qui est amovible, qu'on peut garder en cabine mais qu'on ne met jamais en soute. Et l'idée, c'est de charger son iPad, son téléphone bien sûr, mais pour la première fois au monde, son ordinateur. Donc ça permet de jamais se précipiter comme des moucherons sur les prises dans un aéroport et d'être toujours cool s'il y a des problèmes de jet lag ou de correspondance ratée.
Vous avez commencé à les vendre à quel moment, ces valises?
Alors, on a dit 2 ans de travail. Voilà, 2 ans de travail. Moi, j'ai commencé à San Francisco et ensuite, je suis rentré en Europe, en France. Et ce qui a été très long, c'est de développer, de faire en sorte que le prototype breveté, délivré, correspondent à une production en quantité, donc quantité, qualité suivie, ça c'est très difficile, ça s'appelle le design au manufacturing. Et donc c'est sorti le 23 septembre dans les principaux department stores qu'on connaît comme Le Printemps, Le Bon Marché, El Corte Inglés.
Et vous en avez vendu combien déjà aujourd'hui?
On a vendu un petit peu plus de 3000, donc c'est le début, il faut qu'on en fasse 15 000 l'an prochain, et puis après qu'on ait des chiffres exponentiels. Et là c'est une version 2 roues et je sors une version 4 roues fin de l'été.
Et ça coûte combien? Ça c'est important.
Et ça va de 345 à 595 en fonction de la connectabilité, en fait.
Okay. Notre pigeon voyageur, Marie-Éloi.
Alors, moi, ça m'intéresse énormément parce que j'ai toujours une valise avec moi parce que je suis en déplacement tous les jours pour le réseau business féminin.
Et
du coup, vous avez gagné votre valise.
Je ne fais aucune faveur. Mais du coup, j'ai vraiment étudié toute votre valise et elle me plaît beaucoup parce que, effectivement, elle est très maniable, elle peut grandir, elle est connectée, je peux recharger mon ordinateur en marchant, en la tractant. Voilà, donc c'est parfait pour moi. Il y avait juste 2 petites améliorations, mais vous venez de répondre. C'est une, pourquoi 2 roues et pas 4 roues? Parce que quand on la tourne dans tous les sens, on peut courir avec, c'est quand même beaucoup plus facile avec 4 roues. Et la deuxième, vous avez un compartiment pour les chaussures en bas, donc ça c'est prévu pour les hommes d'affaires. Est-ce que ça marche aussi pour les femmes d'affaires avec des talons?
Alors, pour les hommes d'affaires qui font moins de 45, on peut mettre 2 paires. Pour les femmes avec des chaussures à talons, une seule paire.
Parfait.
être très court pour finir, Kabuto, le nom de cette valise, pourquoi?
Ah oui.
Kabuto, c'est le casque des Japonais, des samouraïs au XVIIe siècle.
C'est aussi un Pokémon.
Il est en métal et c'est un casque rétractable.
C'est aussi
et donc,
un Pokémon
comme cette valise
dinosaure.
Est rétractable,
c'est aussi un Pokémon.
Je l'ai appelé X-Tend, c'est son nom, mais la marque s'appelle Kabuto et tous les prochains modèles qui arrivent, qui seront tous connectés, porteront toujours le nom de la marque Kabuto, qui était libre, il faut quand même le rappeler, qui était juste libre mondialement dans la classe valise.
Valise. Pardon. La valise Kabuto pour le week-end ou pour la semaine,
tout
ça dépend, à vous de choisir. En tout cas, elle fait les deux. Merci Jérôme Tricot d'être venu
Merci
nous la présenter. C'était
Merci
la solution d'aujourd'hui. Merci à Marie qui était notre coach. Rendez-vous demain et n'oubliez pas, vendredi, on vous attend à Reims.